Vous écoutez France Culture.
Réplique, le rire libérateur de Philippe Muret avec Fabrice Lucchini. L'époque qui commence est une tête à claque qu'il devient jour après jour un peu plus agréable de gifler. Je suis de ceux à qui l'auteur de cette phrase si prometteuse manque cruellement. Je porte le deuil du gifleur incomparable. Et je pense à lui, à son autre rire, à chaque fois que j'entends les railleries et les saillies de ceux qui l'appelaient les séditieux de synthèse ou les émeutiers postiches ou les mutins de Panurge, et dont ils disaient que leurs mauvaises pensées étaient élevées dans la vaste zone de stabulation bétonnée de la correction et du consensus. J'ai donc appris avec une grande reconnaissance que Fabrice Lucchini proposait des lectures de Philippe Muret le samedi et le dimanche en matinée au théâtre de l'Atelier, place Charles Dullin à Paris. Avec une grande reconnaissance et une certaine surprise. Après La Fontaine, après Céline, après Flaubert, après Barthes, après Chrétien de Troyes, après tous ces classiques, qu'est-ce qui vous a conduit, Fabrice Lucchini, à Philippe Muret?
C'est la femme de Philippe Muret. Je connaissais de Muret très peu de choses. Yasmina Reza m'avait donné à lire un ou deux textes, un peu compliqués, les entretiens avec Elisabeth Lévy. Et j'avais certainement lu quelques articles. Je me rappelle très bien d'un article où il disait « Mais tout, de tout temps, tout était irrespirable ». Et ça m'avait beaucoup plu. « De tout temps, tout était irrespirable ». Je savais qu'il avait écrit un Céline qui était un peu, pour moi, un peu trop pointu. J'avais tenté de le lire. Et sa femme, Anne Muret, m'a demandé par l'intermédiaire d'un ami de vouloir, puisque son mari était mort, de faire une lecture à la Société des gens de lettres. Et j'ai fait cette lecture qu'elle a organisée autour de textes importants comme les emplois de Martin Aubry, etc. Et cette lecture a donné l'impression que l'oralité, l'efficacité, je dis pas la dramaturgie, mais la puissance comique de Muret était peut-être intéressante à reconfronter à une lecture très sérieuse, dans le sens d'un vrai théâtre. Avec des... Et j'ai commencé une série qui était très courte et qui va s'avérer très longue, car le spectacle maintenant, pas en dialectique, mais avec quelques apports de Sioran et quelques petits apports de Nietzsche ou de Peggy ou des choses selon, j'avais toujours espéré... faire après le gros ramdam du dernier spectacle où j'étais dans des salles de 2000 places, je voulais revenir à quelque chose d'antipathique, je voulais revenir à quelque chose de pas facile, de rugueux, et je voulais bien l'idée de faire un spectacle de Thomas Bernhard, de Schopenhauer, enfin quatre grands désespérés pessimistes pour que les gens sortent accablés. C'était une manière comme ça, dandy de ma part, de dire voilà, on va pas être condamné à la séduction. Et évidemment, je tombe sur Muret et c'est incroyable parce que Muret a des vertus moliéresques, des vertus d'efficacité. Et les gens rient comme si ils étaient à un spectacle de Bigard. C'est effrayant. Il rit beaucoup.
Alors, les textes, c'est Anne Muret qui les a choisis avec vous.
Oui.
Est-ce que depuis, vous êtes familiarisé avec la pensée de Muret, depuis les premières lectures que vous aviez faites, comme vous dites, un peu comme ça, superficielles et sporadiques? Et quels sont les critères qui ont présidé au choix? Et vous pourrez
alors
éventuellement en lire certains.
Les critères, c'est... Elle m'a donné des textes. La mairie de Paris faisait une fête de plus. Et j'avais eu l'idée de peut-être dire, tiens, si pour la mairie de Paris, puisqu'ils veulent faire la fête du théâtre dans chaque quartier. Alors, elle m'a donné un nombre de textes. Ces textes mettent en scène le grand, l'unique dialecticien de notre époque, c'est-à-dire quelqu'un qui a osé s'opposer à la doxa du tout festif, du tout bien, du tout sympa, du tout merveilleux, du tout bobo, du tout enfant, du tout festif. Et derrière ce concept, il devient de moraliste quasiment un philosophe, parce que si j'en crois les concepts de Deleuze, être philosophe, c'est inventer un concept. Je pense que Muret, en attaquant la doxa générale depuis les années 60, c'est-à-dire le bien-pensant, le festif pour toujours, le culturel pour tout le monde, il est le seul qui est comme un nouveau son, et on s'aperçoit qu'en écoutant sa voix, on écoute quelqu'un qui a osé dialectiser et mettre en opposé ce qui est normalement qui ne demande pas, qui ne fait plus débat, pour parler les termes de Muret, c'est-à-dire le festif, le culturel. Je sentais bien, et je vous laisse tout de suite la parole, je sentais bien que le tout culturel allait anéantir l'art. Je me rappelle d'ailleurs d'une de vos phrases, vous, Finkielkraut, quand vous disiez que le culturel, quand dans un autre mot qui passe en contrebande et devient socioculturel, il n'y a plus d'art, il n'y a plus qu'une mécanique à ordre. Et là, Muret l'a mis en concept. C'est pas compliqué en réalité, hein, parce qu'on dirait que c'est une émission intello, c'est pas intello du tout. C'est que la thèse de Muret, c'est que le festif est un parti de l'ordre. Et derrière le festif, il y a du fascisme.
Alors justement, le festif, j'ai sous les yeux un texte intitulé « Homo festivus » dont je voudrais lire quelques extraits pour, en effet, que nous voyons de quoi il s'agit chez Muret. En juillet 1996, comme chaque année à la même époque, la ville de Berlin a été la proie d'une de ces fêtes musicales monumentales et totalitaires dont notre fin de siècle a le secret. Ce sont les gigantesques Love Parades de Berlin. Quelques jours plus tôt, dit-il, un journaliste du Monde vantait l'initiative du maire de Nœux-les-Mines, Pas-de-Calais, qui avait eu l'idée remarquable de transformer certains terrils de son agglomération en pistes de ski synthétiques jaunes et vert fluo. Ainsi, les petits-enfants des anciennes gueules noires du bassin minier pourraient-ils désormais goûter tous les plaisirs des amateurs de la glisse. Troisième exemple, à Brest, ce même mois de juillet, c'est une autre marée humaine dont on a salué l'apparition tout au long des quais, un rassemblement formidable de spectateurs piétinant dans l'espoir d'admirer des bateaux du passé, des goélettes hollandaises et des voiliers de légende. Voici le commentaire de Muret. Les milliers de jeunes de la Love Parade berlinoise, éventrant toute une ville de leur vacarme d'apocalypse hilar, deviennent des agents de l'amour universel. Les amateurs de voiliers de légende, embouteillés sans remède dans l'obscurité des tunnels de l'arsenal de Brest, représentent l'avant-garde admirable d'une humanité vouée à la déambulation approbative dans un monde qui se réaménage à toute allure en espace de loisirs. Quant aux skieurs descendant les terrils du Pas-de-Calais, barbouillés de vert fluo, ce ne sont même plus des pentes de neige virtuelles qui dévalent, ce sont les bienfaits en soi de la modernité carnavalisée. Voilà un peu le festif, oui. Selon Muret.
Ce qui est étonnant, c'est que tous ces personnes n'auraient osé contester sur le papier cette doxa-là. Qui oserait dire qu'un festival qui réunit des gens malheureux, désœuvrés, qui n'ont pas d'argent, qui oserait, à part Muret, oser dire que ce qui apparaît comme l'empire du bien, un truc vraiment bien, comme tout animateur politique le souhaite, occuper les gens, les entraîner à ce qu'ils appellent la culture, comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un qui ose dire « je soupçonne derrière tout ça une aliénation hallucinante », qui ne soit pas un raseur, qui ne soit pas un moraliste pénible, un réac épouvantable, mais quelqu'un qui dit « voilà, cet empire du bien, ces intentions prodigieusement bonnes ont derrière une dimension tragique, et Muret le photographie, le met en scène et met en scène que derrière le festif, derrière le sympa, derrière le global, il y a la mort du réel. C'est pas moral la position de Muret. C'est pas « oh les gens s'amusent, c'est chiant ». Non, les gens s'amusent d'une certaine manière qui dénie la réalité et qui crée une qui crée la mort de la vie et la mort de l'art. C'est ça où
Et c'est drôle d'ailleurs, et juste je vous laisse parler, c'est que quand on le théorise, c'est pauvre, et quand on le lit au théâtre de l'Atelier, la pensée devient une incarnation et devient incarnée et charnelle.
Et les gens sont heureux, en effet, parce qu'ils se sentent momentanément, le temps de la lecture, délivrés précisément de cette doxa qui ne cesse de peser sur eux. Mais aussi, il y a un paradoxe que je voudrais faire apparaître. Parce que je lis moins bien que vous, mais ce que je lis n'a pas besoin de moi pour être incroyablement drôle, triste et drôle à la fois, comme ces anciens mineurs transformés dans un autre bassin sidérurgique en schtroumpf. Mais ces terrils devenus pistes de ski vert fluo, on se dit, mais c'est pas possible, c'est drôle. Et là, il y a un paradoxe. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a une sorte d'extension du domaine du rire. On rit partout, on rit tout le temps. Et en même temps, une réduction par la doxa, un rétrécissement du domaine du risible. Parce que de quoi rit-on, à part, si vous voulez, de la taille et des tics du président de la République ? Notre société, avec ses iPhones, ses iPods, ses iPads et sa fête généralisée, ne sait plus rire d'elle-même. Elle se défausse de sa propre risibilité sur ces boucs émissaires, ces victimes exploitoires que sont devenus les hommes politiques et notamment les gouvernants aujourd'hui. Et c'est ça, moi, qui me frappe. Tout d'un coup, on ne savait pas à quel point nous étions nous-mêmes risibles, à quel point notre époque était elle-même risible. Il me semble que Muret le rappelle opportunément.
En plus, là, vous parlez finalement, enfin, ça, c'est le fonds de commerce de l'humoriste salarié. Le génie de Muret, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que si ça continue à l'Atelier, ça va devenir une fête de plus, hein, parce que les gens hurlent de rire, les gens entendent des choses absolument abominables sur l'infantéisme, c'est-à-dire sa thèse de la régression de l'enfant roi qui devient une régression du moi projeté. Ils entendent l'irréalité des nouveaux métiers de Martine Aubry, tout le monde est ravi, et ils entendent des poèmes irrésistibles, et tout le monde se marre. Donc, on ne faudrait pas que ça devienne festif, du tout, du tout, du tout. Mais en même temps, il a écrit des choses sur le risible, mais son attaque, à mon avis, son attaque, elle est immense. Je ne sais pas s'il a écrit contre les amuseurs mécaniques ou contre le fonds de commerce du risible constamment.
Peut-être pas. Peut-être
il a écrit des choses, Alain, mais qui s'appellent une crise du risible, mais il n'a pas tellement attaqué ce qu'on
non,
peut
parce
appeler.
Que mais ça n'existait pas. Oui, avec la même force,
oui,
il est mort trop tôt.
Il est mort trop tôt. Il y a 4 ans, 5 ans.
Ça déferle depuis. C'était, si j'ose dire, cantonné à Canal+. C'est quand Canal+ SM. Le service public est totalement transformé. Oui. Il y a une dictature de Canal+ sur le service public.
Alors
aussi,
cette dictature, donc, Alain, ce serait réduire notre grand Muret de penser que cet épiphénomène qui vous intéresse beaucoup, mais que moi,
parce qu'il m'inquiète énormément.
Oui. Alors moi, il m'inquiète pas parce que je pense qu'ils sont très bien payés, que c'est des fonds de commerce d'indignation. Alors, c'est plutôt moral. Moi, je ne vais pas parler trop de ça, mais c'est que c'est la posture gauchisante, socialisante du comique très bien payé qui est ennuyeux, rasoir et peu talentueuse. Quand on imagine l'efficacité des textes de Muret, quand Muret commence en disant, vous me permettez, un bataillon d'agents de développement du patrimoine ouvre la marche, suivi presque aussitôt par un peloton d'accompagnateurs de détenus, puis arrive en rang serré des compagnies d'agents de gestion locative, d'agents polyvalents, d'agents d'ambiance, d'adjoints de sécurité, de coordinateurs petite enfance, d'agents d'entretien des espaces naturels, d'agents de médiation, d'aide éducateur en temps périscolaire, d'agents d'accueil, des victimes et j'en passe énormément. Ferme le cortège, un petit groupe hilar d'accompagnateurs de personnes dépendantes, placés en institution, talonnés par des redécouvreurs de l'histoire des villes et des promoteurs des ressources touristiques en direction des pays émergents. Musique, vers le ciel d'azur s'envolent des ballons, un camion grue déguisé en sapin de Noël s'élance en grondant, la foule massée des deux côtés de l'avenue applaudit sauvagement, le monde retrouve enfin sa base. Le patrimoine est rassuré, la petite enfance respire. Le tissu social en cours de réparation frémit d'aise, les réjouissances ne font que commencer. Non, 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 il ne s'agit pas d'une parade des arts de la rue, il s'agit des nouveaux emplois jeunes de Martine Aubry, réunis dans un rassemblement imaginaire tel qu'il pourrait se présenter à l'occasion d'une fête géante, une sorte de, je sais pas moi, une sorte d'Halloween à l'échelle nationale, une Love Parade en plein Paris, une Job Pride, mais oui, pourquoi pas, une Job Pride. Et là, c'est le début de ma lecture, au début il y a du Cioran, et là on montre que les nominations linguistiques cachent qui n'existe plus, et là Muret attaque de front la gauche, la droite, ce qu'il appelle les créateurs événementiels, parce que souvent t'entends quand tu vas à France Inter faire l'émission de du Fou du Roi, quelques comiques qui disent « Ah, oh, mais Muret, quand même, même... » Mais quand même, ils reconnaissent évidemment le génie. Pourquoi le génie ? Parce que ces deux veaux se réunissent à des proches. C'est-à-dire qu'en plus de tout, ce grande puissance comique de Muret, c'est ça qui certainement a une efficacité au théâtre. Je ne pense pas que la pensée de Muret est comprise. On la dira tout à l'heure, celle qui résume tout sur Malraux. Mais là, la lecture... Allez-y. Parce que votre axe sur le comique comme inquiétant, je ne le partage pas, mais je ne me dégonfle pas. Pour moi, le fond de commerce de l'indignation du rebelle salarié très bien est pitoyable.
Alors, d'abord, je trouve en effet que ce texte, Martine Aubry fait concurrence à l'état civil, absolument extraordinaire, et il est très beau que vous ouvriez votre spectacle sur ce texte. Et d'ailleurs, les gens sont absolument saisis. Ils rient, mais c'est un rire intelligent, si je puis dire. Ils voient quelque chose se révéler de la société moderne, et il est beaucoup plus intelligent que tous les sociologues Muret, en l'occurrence, parce qu'il voit ce basculement dans le monde du tertiaire. Les emplois industriels disparaissent, le tertiaire fait la loi, le monde des services et des services de plus en plus singuliers, bizarres, stupides, qui prolifèrent absolument. Muret le dit merveilleusement.
Et le comique qui en sort. Mais alors un contestataire de vous dirait, mais alors vous, Finkielkraut, vous voulez le bon, le mal, vous êtes toujours en train de nous emmerder, à nous dire il faut rire bien, il faut rire mal. Alors, chez Muret, on rit bien, chez les couillons, on rit mal.
Alors, je vais m'expliquer. D'abord, même en émettant une certaine réserve vis-à-vis du rire de Muret.
Ça m'intéresserait, votre réserve.
J'aime énormément le lire, mais je ne peux pas le lire à très haute dose, parce que c'est un rire exclusivement satirique. C'est le rire du désaccord parfait, pour reprendre un de ses titres, avec la modernité, oui, une postmodernité qu'il vomit, et il a beaucoup d'arguments. Et là, j'ai lu un texte d'un grand humoriste extraordinaire, écrivain merveilleux de la première moitié du XXe siècle, Chesterton, qu'on redécouvre aujourd'hui, et on n'a pas fini de le redécouvrir, mais il fait une distinction entre l'humour et l'esprit. Il dit « L'esprit est la raison sur son fauteuil de juge. Et si les offenseurs sont parfois touchés, le juge, lui, ne l'est jamais. L'humour, pour sa part, comporte toujours l'idée que l'humoriste en personne est en position de faiblesse et qu'il est pris dans les imbroglios et les contradictions de la vie des hommes. » Muret n'est pas lui-même en position de faiblesse. C'est l'apothéose de l'esprit et non celle de l'humour au sens de Chesterton. Mais là, j'en reviens au rire que je n'aime pas, hein, à la satire d'aujourd'hui, parce que celle-ci n'a ni esprit ni humour. Et je m'inquiète d'elle parce que je la vois comme le bras armé de la correction politique, le gourdin de la bien-pensance. Elle tape là non où ça fait mal, elle tape là où ça fait du bien à l'idéologie dominante. Voilà pourquoi je me suis en effet indigné des éditoriaux de Stéphane Guillon sur Éric Besson, parce qu'on n'avait pas besoin de lui pour dire du mal d'Éric Besson, mais il est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire, il en a fait un nazi. Et la bien-pensance a applaudi. Donc, c'est un rire, une satire qui ne pulvérise pas les stéréotypes, mais qui les radicalise, qui les hystérise, qui les pitbullise, oui, si vous voulez, et qui les déchaîne. Et ça, je n'aime pas que le rire se mette du côté du lynchage.
Je comprends très bien. mais la puissance des textes des grands, des génies. Et là, même si Muret n'est pas Céline, même si Muret n'est pas Flaubert, lisons les correspondances de Flaubert, les grands textes de Céline, et on revoit immédiatement ce qu'est le talent, le génie. Et il ne faut surtout pas attaquer ces professionnels, ces salariés du comique. Je ne les attaquerai pas, moi, d'un point de vue moral, parce qu'ils ne comprennent rien, mais il faut les attaquer sur que c'est des nains à côté d'un grand comique. Qui est Muret ou qui est Céline? Quand Céline dit, chez eux, c'est un peu plus gai que chez les Enrouilles. Il y faisait bon, pas sinistre comme là-bas, seulement vilain, tranquillement. Ce mec qui sort seulement vilain, tranquillement, ça tue tout ce qui a été dit depuis 150 ans à Canal+, et à France Inter, parce que c'est génialement drôle, et que les autres qui sont des professionnels, et qui sont des salariés, qui en plus gagnent très bien leur vie, sont des gens qui sont pauvres par rapport aux grands comiques.
Mais moi, je ne leur reprochais pas de gagner leur vie. Mais ce que j'attaque à travers eux, c'est ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la doxa. Une doxa absolument étouffante, et d'autant plus étouffante, et là, nous retrouvons Muret, qu'elle se pare des plumes de pain de la rébellion.
Et de l'indignation.
La rébellion, des sans-papiers, le transgressif, le subversif.
Pauvre, et puis on est toujours dans la subversion et la transgression. Et puis eux sont toujours du côté du la non-bourse immonde. Comme si on n'était pas de leur côté, on serait des ignobles 440 incarnés avec les couilles remplies d'or, etc. Bah oui, parce que c'est le bien et c'est le mal. Mais moi, je les nomme pas. Parlons d'autre chose que d'eux. Parlons de choses. Qu'est-ce que vous aimeriez de...
Parce que parlons du débat, peut-être.
Alors, le débat, alors la thèse du débat. Je ne l'ai pas sur moi, le débat. Là,
moi,
c'est
je
étonnant.
L'ai. Je l'ai.
Ah, alors... c'est merveilleux, le débat. Parce que le débat, c'est l'idée que Muret... c'est assez nietzschien, d'ailleurs. L'idée de Muret, c'est qu'il ne faudrait jamais débattre. Pourquoi ? Parce que plus il y a du débat et plus il y a de la perte de réel. Et qu'aucun débat aucun débat ne pourra produire plus de compréhension de la réalité. Au contraire, le débat part de l'illusion que c'est une réunion de gens comme grégaire et en même temps ensemble, qui frottent leur psychisme comme les gens frottent les babouches et pensant que ce frottement va créer une idée de génie. Alors là, ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu vous l'avez là ?
Oui, je
le
l'ai
débat,
là.
On va dire l'essentiel. Je vais faire des coupes.
163, 165.
Alors j'y vais, je me rappelle à peu près. Il ne faudrait jamais débattre. Le débat, comme le reste dans notre univers d'intransitivité galopante, a perdu son complément d'objet. On débat avant de se demander de quoi. L'important est de se rassembler. Le débat est devenu une manie solitaire qu'on pratique à 10, à 50, à 100. Un stéréotype célibataire, en même temps que grégaire. Une façon d'être ensemble, un magma d'entre-gloses qui permet de se consoler sans cesse, de ne jamais atteindre seul à rien de magistral. Il ne faudrait jamais débattre. Alors ce qui est merveilleux, c'est que je vous passe plein de moments et c'est quand il dit « Et ceux qui font partie du débat, se rendent-ils compte tout de suite qu'ils sont dans un faux débat ? Et quand ils sont dans un faux débat, ont-ils le droit de sortir en portant plainte pour usage et faux débat ? Ou ils espèrent que c'est le prochain débat ? Et la succession du mot débat prend une dimension immense, ça devient du Raymond Devos inspiré, c'est-à-dire qu'il arrive à dire, et ceux qui font des débats, se rendent-ils compte qu'ils sont dans un vrai débat ou ont-ils l'impression que c'est le prochain débat qui sera le bon ? Et quand ils sentent qu'ils sont dans le mauvais débat, ont-ils droit de porter plainte pour faux usage de faux débat ? Là, on voit le Muret très très bon.
On voit l'excellent Muret. Je pense que c'est même mieux que Raymond Devos parce que ça dit vraiment... quelque chose du monde réel, de cette intoxication par le débat. Mais il y a aussi un passage que je voudrais lire dans la continuité de ce que vous venez de faire, Fabrice Lucchini, d'ailleurs que vous lisez dans votre spectacle. Les mêmes qui réclament de vrais débats se félicitent aussi dans le même temps que des choses de plus en plus nombreuses ne fassent plus débat. La multiplication extatique des débats s'appuie sans le savoir sur l'accroissement perpétuel de tout ce qui, au fur et à mesure que se multiplient aussi les inventions les plus monstrueuses, ne fait plus débat. Et vous lisez un peu plus loin, il est bien évident que Paris-Plage ne fait plus débat, la Nuit Blanche non plus, pas davantage que la Gay Pride, la Technoparade et tant d'autres monstruosités qui devraient être des objets de pensée et des objets de risée. Et alors là, moi je pense à une réalité beaucoup plus actuelle, qui nous ramène aux amuseurs, mais je les laisse de côté, rassurez-vous. L'identité nationale. On a voulu faire un débat sur l'identité nationale. Mediapart a publié un texte qui était vraiment une offrande à Muret. Nous ne débattrons pas. 45 000 signatures d'intellectuels et de citoyens en colère. Nous ne débattrons pas. L'identité nationale ne fait pas débat. Et là, nous sommes au cœur, me semble-t-il, de la pensée de Muret, parce qu'il a mis le doigt sur la grande équivoque démocratique. D'un côté, la démocratie, c'est la mise en forme de la coexistence humaine telle qu'aucune opinion ne prévale par nature ou par statut. Donc, on discute de tout. Mais d'un autre côté, la démocratie, c'est une dynamique, c'est un mouvement. C'est l'égalité, le développement graduel de l'égalité des conditions, dit Tocqueville. Et donc, c'est à la fois une scène et un processus. Et aujourd'hui, les cavaliers du processus occupent la scène. Et donc, ils nous disent ce qui est démocratique et ce qui n'est pas démocratique. Et l'identité nationale n'est pas démocratique. L'hostilité au mariage homosexuel n'est pas démocratique. L'opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est pas démocratique. Et je me souviens d'un débat, si j'ose dire, d'une conversation télévisée entre Edoui Plenel et Daniel Lindenberg. Je cite Daniel Lindenberg parce qu'il a écrit « Les nouveaux réactionnaires » et Philippe Muret était dans la liste et il lui a répondu un texte qui figure, je crois, dans Moderne contre Moderne, « Les nouveaux actionnaires ». Et donc, et ils disent, ils s'étranglent d'indignation. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu créer un débat poli autour de cette question de l'intégration de la Turquie à l'Union européenne, au lieu de s'indigner simplement qu'on puisse mettre en cause cette intégration qui démocratiquement va de soi. Et ça, Muret l'a vu admirablement, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il parle aujourd'hui de la démocratie terminale. On va vers l'indifférenciation, le mélange, le métissage, un des grands mots du jour aussi, et Muret justement, pointe, si vous voulez, l'absurdité ultime de cette obsession du débat dans une société qui est de plus en plus sectaire et de plus en plus dogmatique.
Ce serait étonnant, ce serait d'imaginer que des professionnels de l'événementiel, comme dit Muret, imaginons gentiment, imaginons Martine Aubry ou Bertrand Delanoë, mais face à Muret, d'abord, il n'aurait peut-être quasiment pas la richesse, le le nihilisme nécessaire, parce que quand même, quand on lit Muret sérieusement, le réel est foutu, il n'y a plus de réel, c'est la fin du monde, c'est foutu, et c'est pour ça que je le mettais souvent en dialectique avec Cioran, parce que Cioran, pour moi, est très intéressant dans la mesure où Cioran veut faire taire et mourir en lui tout espoir. À un moment, Cioran dit « Je ne suis absolument pas réactionnaire, je suis pour toutes les réformes, tout ce que vous voulez, tous les systèmes que vous désirez, il n'empêche, l'homme n'en a plus pour longtemps. » Voilà. Et vous savez, la grande dialectique entre gauche et droite souvent, et qui vous fait que, par exemple, dans un parcours comme le mien, j'ai commencé Céline, Flaubert, Baudelaire bientôt, que c'est plutôt des penseurs négatifs, triste, parce que c'est la réalité que la bonne bienveillante pensée, le bon sentiment produit jamais de grande littérature. C'est un lieu commun, mais c'est très important de le dire. Mais moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est à ce spectacle-là, par exemple, à l'atelier, c'est que des gens viennent, que Delanoë vienne, que Jack Lang vienne. Parce qu'il y a tellement d'arguments aristocratiques, au sens nietzschien du terme, pas au sens hiérarchique, pas au sens politique, mais c'est tellement brillant qu'il ne pourrait plus agir. Lire Muret ne peut plus faire de toi un homme politique. Quand j'ai dit une fois au président de la République dans ma loge la phrase de Paul Valéry « que de choses il faut ignorer pour agir », ben, ça aurait pu être aussi un président de gauche ou de droite, peu importe. Il est évident que des penseurs comme Muret sont des penseurs de la suspicion absolue sur les mythifications. Un homme politique ne s'occupe que de mythifications. La pauvre Martine Aubry, il le dit lui-même, et elle est bien obligée d'inventer du sens. Si on donne dans toutes les écoles du Muret, du Baudelaire, du Rimbaud et un peu Nietzsche, il n'y aura plus de manif, mais il y aura des suicides. Donc, les créateurs d'événementiels sont bien obligés d'inventer du sens. Le génie de Muret, c'est de s'opposer à la, quelle est sa phrase exacte, un roman qui n'opère pas une trouée
dans la réalité de propagande du réel, à quoi ça sert? Eh bien, tous les gens de pouvoir sont obligés de créer de la propagande, qu'elle soit marxiste ou capitaliste, libérale. Et ce qui est merveilleux dans les grands écrivains, c'est qu'ils font une trouée à l'égard de la doxa. Ils sont à l'opposé de la gauche. Les crétins qui disent « Oh, Muret, c'est un réac, t'as vu son rapport à la culture ?» Mais pauvre con, il aimait l'art profondément. Il détestait le socioculturel. Et ce sera le moment, dans quelques minutes, de lire ce petit texte sur Malraux, car même 50 minutes, on n'a pas le temps, comme dirait Muret, de débattre. J'aurais adoré vous dire deux, trois poèmes très courts qui auraient été comiques pour montrer à quel point il est côté du bon côté du rire, le rire nietzschien, c'est-à-dire le rire magnifique. Hein, comment je regarde un livre, je l'ouvre en me demandant, cet auteur dit Nietzsche, s'est-il marché ou mieux, s'est-il dansé, comme son livre est vite refermé.
Alors, j'ai quand même envie de prendre, avant de vous laisser, et nous avons le temps, lire ce texte extraordinaire sur Malraux de Muret, qui est dans votre spectacle, d'abord défendre un peu les hommes politiques. Pitié pour les hommes politiques qui sont assaillis de toutes parts et qui ne sont pas obligés de tomber dans cette propagande délirante pour la société hyperfestive et qui serait bien avisée. Ça, notamment...
Ah là, il serait plus élu.
On ne sait pas. Mais il est clair qu'ils ont créé une certaine idée de la culture à laquelle ils sont très attachés.
Puisque apparemment démocratique, pour tous nos éditeurs, le mec qui se prend responsable de France Culture, pour tous nos auditeurs, il faut quand même savoir qu'évidemment, apparemment sur le papier, c'est du bon côté. Hein, ça part du bon côté. C'est pour la culture. Et alors ?
Alors justement, là, il y a une chose, un passage que je voudrais lire que je trouve tout à fait extraordinaire. Et c'est à nous tous qui sommes malgré tout dans la culture et pas forcément dans le culturel, d'en prendre de la graine. C'est extrait de Après l'histoire. Et c'est une histoire, justement, qui se passe en plein Limousin, à Vassivière. Et ça, on l'apprend où ?
C'est déjà commis.
On l'apprend où ? Dans Télérama. On a créé, dans les Limousins, un centre d'art contemporain dont l'architecture, paraît-il, est, ouvrez les guillemets, un mélange de hangars, de temples grecs et d'écuries, avec au bout du monument un phare breton. Ce qui est déjà par soi-même, comme Mante Muret, tout un programme. Et le directeur de ce centre d'art contemporain a cette phrase incroyable. « En Limousin, si on veut s'en sortir, il nous faut passer du cul des vaches à la modernité, pas bientôt, mais tout de suite. » Et à ce moment-là, Muret se lance dans une évocation extraordinairement poétique, et il faut bien le dire, des vaches, les vaches, les tendres vaches traînantes aux doux mufles tremblants, avec leur bonne odeur de boue et de lenteur, leur mugissement mélancolique et la rondeur de leurs énormes flancs et leur élégance gargantuesque sont donc mises en opposition avec un art indéfendable et il est expressément conseillé de préférer celui-ci à celle-là. Et même les merveilleuses vaches que l'on voit entassées comme des masses de nuages roux et blancs dans les admirables esquisses d'Eugène Boudin, où parfois elles ne sont plus que des soupirs de brume sombre, des taches vagues flottant entre le ciel et l'herbe, toutes ces vaches en série et si méconnues, et dont je n'ai jamais compris qu'elles ne soient pas traitées avec le même respect que les nymphéas de Monet ou ces cathédrales de Rouen, ne sont probablement, elles aussi, que des vulgarités aux yeux du festiviste et des obstacles à renverser sur le chemin du pays des merveilles modernes. Le paysan regardait passer les vaches, il se doit maintenant de manger la vache enragée de l'art contemporain. Et pour enfoncer le clou, il a cette autre citation du directeur de ce centre. « Aujourd'hui, une gigantesque trame faite de toutes sortes de maillons et de rhizomes réunit installations, textes, sons, photos. » Nous devons exprimer toute cette générosité ambiante sans faire le tri. Les visiteurs se sentiront plus à l'aise dans un environnement qui exprime mieux l'air du temps. Un centre d'art n'est pas un musée, mais un lieu de vie. Alors oui, on aimerait que les hommes politiques en charge de la culture et que tous les apparatchiks de la culture aillent à votre spectacle ou lisent ce texte. Peut-être prendraient-ils conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils détruisent.
Je viens de prendre conscience d'une manière extraordinaire. Il y a chez Finkielkraut un véritable optimiste et absolument pas nihiliste. Il espère encore quelque chose. Il n'est pas muréien, car on voit bien que chez Muret, il y a la fin de l'histoire, il y a la fin de la géographie. Il n'est pas disciple de Cioran, il ne cherche pas l'anéantissement. Yaché, l'idée qui pense qu'un jour les choses iront mieux avec des hommes politiques providentiels, mais ça va, la phrase de Nietzsche résume tout, c'est très grave, tout finira dans la canaille. C'est fini, Alain. Vos combats, vous devriez maintenant les mettre à la lumière de Cioran, indifférence. La phrase de Flaubert, qu'ils disent du mal de moi derrière, seulement mon cul vous contemple. Il y a chez Finkielkraut un espoir. Il n'y a aucun espoir.
Non.
La machine de communication sera la plus forte. Le nombre sera le plus fort. L'empire du bien va gagner. La puissance de la démagogie, les Chinois vont débarquer. C'est la fin de tout. On va écouter Malraux. Ou pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Ça d'accord. Ouais, moi, je me mets à votre rythme. Mais j'ai ressenti, finalement, Finkielkraut n'est pas nihiliste.
Non.
Pas du tout. Écoutez, pas tellement. Beaucoup moins que moi, en tout cas. Beaucoup moins que moi.
Oui.
Parce qu'une fois, un Grec se promenait en Grèce. Il a vu Socrate et il a dit à Socrate que cet homme, c'est Nietzsche qui écrit, que cet homme incarne le ressentiment. Et comme cet homme est laid, et Socrate a répondu, comme il me connaît bien. Eh bien, chez Finkielkraut, il y a l'envie de dépasser le ressentiment et même de pratiquer le concept carrément judéo-chrétien de l'espoir du mieux.
Alors, deux choses. Premièrement, c'est vous qui avez parlé des hommes politiques. Alors, j'ai dit oui, voilà ce qui pourrait en effet leur être utile. Deuxièmement, je ne suis pas optimiste, mais j'ai un enfant. Et voilà. Et ça, ça oblige un peu à prendre soin d'un avenir qui ne s'annonce pas très gai.
Vous connaissez Cioran, la phrase « Si j'avais un enfant, ma présence, ma connaissance intuitive de l'avenir est telle que je l'étranglerais à la minute. »
Ben voilà, et moi j'aime le mien, qui n'est plus tout à fait un enfant, et je ne me livrerai pas, à cette extrémité. Alors cela étant, j'ai beaucoup admiré dans votre spectacle, justement, la mise en relation de Cioran et de Muret, d'autant que souvent on reproche à Cioran une certaine affectation dans le désespoir, une certaine coquetterie du pessimisme. Et la phrase que vous avez lue est justiciable de cette critique. Mais moi, je lis son désespoir autrement. J'en aime, si vous voulez, le côté absolument désopinant. Il déchire le voile ou le rideau des illusions sentimentales. Et je voudrais en lire une phrase, moi.
Oui.
Une phrase à laquelle je n'adhère pas complètement, mais qui me fait énormément rire. À tel point, le doute sur soi travaille les êtres que pour y remédier, ils ont inventé l'amour, pacte tacite entre deux malheureux, pour se surestimer, pour se louanger sans vergogne. C'est génial. Vous êtes d'accord?
Il faut que je la garde, celle-là, elle est belle.
Oh, elle est belle. Elle est très belle. Et moi, toute ma vie, je veux dire, ma pensée et ma vie, si j'ose m'exprimer avec cette emphase un peu ridicule, proteste contre cette phrase. Je me refuserai toujours à lui laisser le dernier mot, mais je la trouve absolument extraordinaire. Et face au déluge de kitsch et de sentimentalité, elle est salutaire.
Est-ce que je peux me permettre de dire un petit peu? Je sais que vous n'êtes pas un fou de Céline, mais ça me fait dire, autant pas se faire d'illusions, les gens n'ont rien à se dire, ils ne se parlent que de leur peine à eux, chacun s'est entendu, chacun pour soi, la terre pour tous, ils essayent de s'en débarrasser de leur peine sur l'autre au moment de l'amour, mais alors ça ne marche pas, et ils ont beau faire, ils la gardent tout entière, leur peine. Intuition de génie sur le drame du rapport amoureux. Est-ce que vous voulez Malraux?
Ah bah oui, bien sûr.
Parce que là, Malraux, on n'a pas eu le temps. 50 minutes, c'est absolument absurde. C'est 5 heures qu'il faut pour mêler Muret, Cioran, pour mêler aussi les textes sur Jouvet qu'il a écrit. Donc, on a 52 minutes. Et c'est étonnant, l'espace médiatique. On n'en a jamais. C'est là où le théâtre est vraiment un lieu exceptionnel. Je vais employer des termes à la con, de résistance. Car au théâtre, on a un sentiment d'accomplissement. On sort d'une heure 50 de lecture, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Et bizarrement, même un espace comme le vôtre, qui est exceptionnel, on a quand même le sentiment que tout n'est pas possible à dire. Alors, Malraux versus culture résume le génie de Muret. Alors, ça commence par « On n'entend plus les voix du silence. La voix de harpie de la culture les a remplacées. » Mais nul ne peut tenir Malraux pour responsable de la métamorphose funeste de ce qu'il appelait, lui, culture, en instrument de contrôle et de domestication de cette modernité à laquelle rien ni personne désormais ne doit plus échapper. Pourquoi l'art à l'hôpital ? parce qu'il n'y a aucune raison que le territoire des biens culturels et intellectuels soit interrompu, expliquait récemment un de ses innombrables coordinateurs, agents de proximité, médiateurs, clowns, médecins, membres de milices poétiques, chef-d'œuvre, membres de milices poétiques, musiciens compassionnels, rénovateurs des sensibilités, thérapeutes des rues et autres organisateurs de carnaval, de chevet, que la culture enfant âgée continue. Celle-ci, en effet, n'a aucune raison de s'arrêter nulle part. Elle est partout chez elle, rien ne lui résistera. Et c'est ce qu'elle glapit à chaque instant. La culture, selon Muret, ne veut que la capitulation des ultimes réfractaires et la reconnaissance par tous qu'ayant fusionné avec les loisirs et le tourisme, elle est notre destin sans alternative et qu'elle se confond avec le peu qui reste de la liberté. La culture est l'autre nom de la fête, qui est le cœur disciplinaire de la société qui commence et l'organe par laquelle s'exprime le nouveau parti de l'ordre. Les militants de la culture sont les mercenaires de l'inéluctable. Malraux ne pouvait pas prévoir leur règne. La générosité de sa vision saccadée lui faisait regarder l'art au contraire comme un antidestin, c'est-à-dire comme l'ennemi de ce qui est inéluctable, donc en fin de compte, comme le seul adversaire de la mort. Il était étranger à l'ignoble chantage mortifère du nouveau qui a toujours raison. L'art, qu'il soit littéraire ou plastique, n'exprimait jamais rien d'autre à ses yeux que l'idée que la partie n'est jamais et n'est pas jouée. Qu'il n'y a pas de loi, que rien ne sera jamais complètement analysé ni bouclé, qu'aucune solution jamais n'en terminera avec le moindre problème, qu'aucune réponse ne comblera jamais le désir insatiable de questions, si possible insolubles, et il est probable qu'il rêvait de voir offert à tous cet antidestin sous le nom de culture et qu'il n'aurait jamais imaginé la transformation de cette dernière en programme de soumission des populations à l'avenir qu'on a choisi pour elles. De sorte que c'est aujourd'hui l'horreur de la culture et de son haut ou bas clergé inamovible qui est la condition première de l'exercice de la liberté. Un commentaire, une minute, c'est le génie de Muret de nous expliquer qu'en réalité, la culture qui est le miracle où chacun est renvoyé à lui-même dans sa solitude, dans son rapport à lui, dans sa construction à lui-même, est confisquée, selon Muret, en faveur d'une globalité massive qui réduit l'art dans ce qu'il a d'inéluctable pour en faire un matériau de consommation, de loisir ignoble dans lequel il n'y a plus la vérité de la vie, il n'y a plus qu'un outil, c'est là où c'est totalement dément, presque un outil de domestication des masses. Va dire ça à des ministres de la culture sociale ou de droite, ils te prennent pour un dingue.
La domestication des masses, peut-être aussi que c'est une réponse à la demande. Mais en tout cas, je suis très heureux, Fabrice Lucchini, que vous ayez lu ce texte ici. Parce qu'après tout, ici, c'est France Culture. Et France Culture, c'est une instance, et ça peut devenir, c'est tout l'enjeu, une agence du culturel, ainsi définie par Philippe Muret, mais aussi dans des textes moins flamboyants, mais très profonds, par Michel Deguy. Et donc, pour nous autres, pour moi qui fais ce type d'émission, la question se pose. Quelle va être ma voix? Ma voix va-t-elle se joindre au cœur? Vais-je être partie prenante de cette voix de harpie de la culture?
Mais elle va être récupérée, Alain.
Mais je n'en sais rien. Récupérée peut-être, mais je voudrais qu'elle fasse entendre. C'est ça mon propos, mon obsession. Quand je parle et quand j'écris, un autre son de cloche. Après la récupération, peut-être, mais l'adhésion, sûrement pas. Et en tout cas, j'aimerais que tous ceux qui travaillent sur cette chaîne se posent la question, peut-être le font-ils d'ailleurs, loin de moi l'idée de leur adresser une critique globale, mais Muret, c'est en quelque sorte un avertisseur. Hein. Il doit nous servir sans cesse d'alerte, à nous tous et à vous aussi d'ailleurs, nous tous qui, après tout, participons à ce monde-là. Voilà. Que faisons-nous? Sommes-nous partie prenante ou non?
Non, on est des collaborateurs.
Ou faisons.
Les gens qui viennent à l'atelier repartent et lisent du Christine Angot.
C'est pas sûr.
Ne croyez pas ça. Ça fait 25 ans que tous les soirs je fais du théâtre et que je sers des auteurs. Sur les 1000 personnes chaque soir,
faut même pas avoir la vanité de penser qu'il y en a une seule. Ça, c'est le côté. Les gens, d'ailleurs, vous comprennent pas bien. Les gens disent, mais vous êtes un élitiste, monsieur Finkielkraut.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est encore... C'est parmi les reproches les plus gracieux qui me soient adressés.
Le merveilleux procès. Quand tu tombes sur des... Oui, oui. Mais bon, un jour, on fera. Mais il faudrait que vous ayez une vanité plus grande. J'adorerais... m'occuper de votre dossier à l'antenne.
Quand vous voulez. Mais pour dire encore quelques mots de Muret, parce que vous voyez, nous avons encore un peu de temps. Je voudrais citer un extrait particulièrement drôle et paradoxal.
Je pourrais redire trois lignes après ?
Oui, bien sûr. Alors chacun le sien. C'est dans le livre d'entretien avec Elisabeth Lévy. Il est question du 21 avril et de la période de 15 jours entre ce séisme et l'élection de Jacques Chirac. Donc, période de mobilisation antifasciste et notamment un 1er mai où les maires, nous dit Muret, étaient à leur affaire. Je leur ai expliqué, disait l'une d'elles, qui avait amené ses enfants à la manifestation, que Le Pen était quelqu'un de pas gentil, qui voulait que les Chinois, les Arabes, les Africains s'en aillent. Comme elles ont des copains chinois, arabes et africains, elles comprennent. Une autre parlait ainsi de son jeune fils. Le soir du premier tour, il a pleuré. Il avait peur que son copain marocain soit obligé de repartir dans son pays. J'ai dit qu'on ne laisserait pas faire ça. Et puis, pour finir, cette confidence d'une autre mère, ouvrez les guillemets, dans l'école de ma fille, il y a des enfants extrêmement angoissés qui se sentent en danger depuis le premier tour. Toute la semaine, la maîtresse a dû gérer les maux de ventre. Voilà, et je vous laisse.
Alors, il y a deux choses. Il faut que votre responsable me dise 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, combien ? 3 minutes. Allez, un tout petit peu de poème ça s'appelle « Tombeau pour une touriste innocente ». Rien n'est jamais plus beau, selon Muret, qu'une touriste blonde qui interviewe des télés nippones ou bavaroises juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux façons très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. Pour elle, les nations étaient lieux d'élection. Pour elle, les nations n'étaient que distraction. Pour elle, les nations étaient bénédiction d'un bout du monde à l'autre. Et sans distinction, toute petite, elle disait avoir été violée par son oncle et son père, et par un autre encore. Mais elle a dû attendre ses 31 balais pour revoir brusquement ce souvenir éclore. Elle avait terminé son second CDD, mais elle envisageait d'autres solutions. Elle voulait travailler dans l'animation. Pour égayer ainsi nos fêtes de fin d'année. Elle cherchait à présent et pour un prix modique à faire partout régner la convivialité. Comme disent les conseils en publicité, elle se qualifiait d'intervenante civique. Elle avait pris contact avec plusieurs agences et des professionnels de la chaude ambiance. Elle était depuis peu amie d'un vrai artiste, musicien citoyen, jongleur, équilibriste, grand organisateur de joyeuses sarabandes pour tous les mercredis midi et surtout les samedis pour la satisfaction des boutiques Godassland. Dernière phrase sur Louis Jouvet, parce que Muret n'est pas que l'obsessionnel qui ratiocine sur sa haine du réel. Il peut avoir des moments de génie aussi durs, des sujets pas uniquement ponctuels. Moi, ma lecture se termine par cet hommage que je ne ferai pas parce que nous n'avons pas le temps. Ça s'appelle « L'éternité de Louis Jouvet ». Il sort de ce corps de reptile du quaternaire une parole qui est la moins innocente, la moins spontanée, la moins animale qui soit. Jamais il ne s'est laissé abaisser à faire semblant de parler naturellement, ni d'imiter le bafouillis de la vraie vie, toujours à la recherche de ce qui pourrait être dit, de la façon dont on pourrait le dire, en le surchargeant de recherche. Au commencement est le discontinu, construit de son style. Avant ce qu'il va dire, il y a sa diction, qui est à ce qu'il va jouer, ce que la vision préconçue d'un grand peintre est au motif qu'il affronte. Tous les dialoguistes se sont rués pour lui mettre des phrases dans la bouche et les voir retranscrites par fragments et débris dans le marbre noir et net de son articulation pré-taillée. Ils se sont bousculés pour lui donner des répliques à casser, des répliques à tronçonner, des répliques à émisticher, à retransformer en morceaux choisis de bravoure. Mais ils n'ont pu lui confier que ces phrases à lui. Tous les dialogues de Jouvet sont signés Jouvet.
Et ça continue comme ça, c'est exceptionnel, c'est admirable. Et il n'y a pas d'histoire, l'art n'est là que... Quand, vous savez, les parents vous disent « J'aimerais qu'ils lisent Rimbaud », mais je dis « Mais ne leur faites pas lire Rimbaud. La vie de Rimbaud a été affreuse. Cette idée bourgeoise que la culture est chic comme bagage, est une... c'est aussi immonde que la vision socialiste.
» Merci Fabrice Luchini. Merci d'avoir... conclut notre conversation par ce magnifique éloge de la forme. Et je rappelle donc que le samedi
et le dimanche,
pour bruncher, en matinée, vous lisez du Muret, Philippe Muret au théâtre de l'Atelier, place Charles Dullin, tout le long du mois de mai
et peut-être septembre, juillet, août. Après, je vais à l'étranger, etc. Mais il est parti pour une bonne part. Ils peuvent aller bruncher avec tous les bobos.
Bon, très bien. Je voudrais aussi donner quelques titres de Muret. Après l'histoire, chez Gallimard, dans la collection Tell. Festivus Festivus, les conversations avec Elisabeth Lévy, qui est maintenant disponible dans la collection Chant, chez Flammarion. Et Moderne contre Moderne, aux éditions des Belles Lettres. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Culture et mondialisation. Nous resterons donc dans le sujet. Mes invités seront Gilles Lipovetsky et Hervé Juvin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde, à la technique Fabien Eliès. Dans un instant, Jean-Noël Jeannenet.